des murmures dans les oreilles, des invités en tout genre.
Radio Pratique,
c'est l'heure de Radio Pratique.
Des créations sonores, des philosophes, des artistes.
Écoutez le vent.
Attention, ça va être à vous.
Je vais dire tu.
Sentir le vent.
Des poétesses de la scène.
Des circassiennes, des techniciens.
Saison 2021.
Tous qui discutent autour d'une table.
Écoutez le vent passer sous la peau.
Pourquoi est-ce qu'on s'échine à travailler la matière? Parce que l'âme, elle a besoin de s'incorporer quelque part.
Radio.
Pratique.
Considérer ses pensées comme des nuages.
En direct et en public.
Depuis le foyer du TJP Grande Seine.
Voilà. Bienvenue.
Je suis au lit, plongée dans la douceur d'un demi-sommeil. À 6 heures, dès le premier et léger réveil, je tends la main vers le petit transistor posé près de mon oreiller et j'appuie sur le bouton. J'entends les nouvelles du matin, en distinguant à peine les mots, et m'assoupis de nouveau, si bien que les phrases que j'écoute se muent en rêve. C'est la plus belle phase du sommeil, le plus délicieux moment de la journée. Grâce à la radio, je savoure mes perpétuels réveils et endormissements, ce balancement superbe entre veille et sommeil, ce mouvement qui à lui seul m'ôte le regret d'être né. Est-ce que je rêve ou suis-je vraiment à l'opéra, devant deux acteurs vêtus en chevalier qui chantent la météo? Comment se fait-il qu'ils ne chantent pas l'amour? Puis je comprends qu'il s'agit de présentateurs, ils ne chantent plus, mais s'interrompent l'un l'autre pour badiner. La journée sera chaude, torride, il y aura de l'orage, dit le premier. Auquel l'autre coupe la parole en minaudant. Pas possible. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur le plateau de Radio Pratique. J'ai emprunté ces quelques mots à Milan Kundera, extrait de l'immortalité, car nous allons parler de sommeil et de rêve ce matin dans notre radio, du passage d'un corps en mouvement à un corps au repos, d'endormissement et de grâce, avec les artistes de la compagnie Infimontaille. Il n'est pas 6 heures mais 11 heures du matin, pas de petit transistor mais sans doute un smartphone niché près de vous, qui est installé confortablement, 20 000 lieues sous la couette ou dévorant des manoleux sur la table de la cuisine. Faute d'avoir pu présenter son spectacle jeune public « L'écorce des rêves », la compagnie a posté chaque jour une vidéo pour déjouer la contrainte Covid et vous inviter, petites et grands, à rentrer dans leur univers et passer quelques minutes à songer à votre sommeil. Dans quelle position dormons-nous? Et les animaux? De quoi sont faits nos rêves? Au fil de courts récits composés d'images, de mots et de sons, nous avons pu jouer avec l'obscurité, la lune, nos corps et les étoiles, et entendre des petites musiques de nuit. Lou et moi accueillons donc ce matin Maëlle Raymond, danseuse et chorégraphe, Jérémy Chartier, musicien et éclairagiste.
Bonjour.
Christophe Sartori, compositeur.
Bonjour.
Et Renaud Herbin, marionnettiste et directeur du TJP.
Bonjour.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez nous appeler d'où que vous soyez si vous souhaitez nous parler de ces vidéos que vous avez vues, nous raconter vos plus affreux cauchemars ou vos stratégies pour chasser les monstres de vos chambres à l'heure du coucher. Ou simplement pour nous dire si vous avez bien dormi cette nuit. Un seul numéro, le numéro du TJP, est le 06 62 96 68 60. Et en attendant vos appels, on écoute les quelques messages qui nous sont parvenus déjà cette semaine.
Bonjour, je m'appelle Avril et j'aime beaucoup la dame parce qu'elle fait les trucs super bien que je voudrais bien essayer. J'ai 5 ans mais je ne sais pas comment faire. Je suis très jeune et ma maman un petit peu vieille que moi. Bonjour, je m'appelle Avril. J'ai pensé avec mon bonhomme que j'ai dessiné un nuage et qu'il y avait un adulte, un enfant et une maman qui voulaient descendre dans les pays des humains, mais ils ne voulaient pas. Alors, son petit frère était dans un autre lâcher tout. Au revoir.
Peut-être qu'on peut commencer par parler en attendant de voir s'il y a un appel, de savoir un peu, donc comme il n'y a pas eu le spectacle, vous avez proposé ces vidéos, peut-être de savoir un peu comment tu les as pensées et ce qu'elles nous donnent à voir, si tu peux les décrire peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas encore sauté sur le site du TJP pour les voir.
Oui, alors en fait, l'idée c'était de pouvoir faire découvrir la matière sans que les gens puissent voir l'entièreté, donc du coup de manière un peu parcellaire. Et l'idée de base, c'était de commencer par le sommeil, puisque c'est notre thème, donc pouvoir parler aux gens de quelque chose de très quotidien et donc de savoir dans quelle position ils s'endormaient, parce que c'est finalement assez personnel. On a chacun nos positions dans lesquelles on se sent à l'aise. Et il y a souvent une petite danse avant de s'endormir pour trouver ou retrouver cette position en se retournant d'un côté, de l'autre, en mettant la couette comme ci, comme ça. Et de fil en aiguille, l'idée c'était de pouvoir, au fur et à mesure des 5 petites capsules vidéo, pouvoir faire rentrer les gens dans notre univers. Donc la première parle des positions du sommeil. La seconde, elle est liée au son, puisque du coup, au plateau, je suis accompagnée par Jérémy Chartier et Christophe Sartori. Voilà, alors ça, c'était la sonorité de la deuxième capsule. Vous venez d'entendre les mains de Christophe qui passent devant le micro. Et pour pouvoir faire un petit son de frottement qui est lié à un animal qui serait plutôt une musaraigne, une petite souris, enfin un rongeur. Et ça, c'est vraiment une partie du spectacle très concrète, sauf que on l'a fait en différé. Et voilà, ainsi de suite, je vous laisserai aller découvrir les capsules et voir comment vous pouvez nous rejoindre, même si on ne peut pas physiquement se retrouver.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du spectacle, cette semaine, dans votre session au TJP, vous avez eu du temps du coup pour terminer, pour j'imagine parfaire certains éléments du spectacle avant de présenter un filage qui a eu lieu vendredi à un public très restreint de privilégiés à l'équipe du TJP. Mais vous êtes aussi allé dans des écoles faire des ateliers avec les jeunes enfants, et il y en a un dans lequel je vous ai accompagné. Du coup, on va juste entendre les voix des enfants qui raconte un peu, à la suite de cet atelier et des vidéos qu'ils ont vues, leur rapport au sommeil et surtout leur stratégie pour éviter les démons.
Alors moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous vous endormez. Déjà, j'aimerais savoir si le soir, vous aimez vous mettre dans votre lit et vous endormir.
En fait, ma maman, elle me lit une histoire et après, j'allume la petite lumière et après, il y a un mur là, il y a un mur là et moi, je vais au fond du mur ici et après, je vais sous la couette et après, je regarde un petit livre.
Moi, avant d'aller se coucher, maman, elle me lit une histoire où des fois c'est papa et après j'ai un petit peu peur, mais je prends mon doudou, je me glisse dans la couette et après je pense à des belles choses.
Et dans quelle position tu t'endors dans ta couette?
En position comme une petite boule, en position panier. On plisse ses genoux et on met sa tête en dessous de ses cuisses, comme une limace, comme ça.
Moi, je pense à un pays de rêve où il y a plein de gens qui volent sur des licornes et qui montent des cheveux à volant.
Moi, je pense aux voitures de course.
Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps au moment où vous vous mettez dans votre lit et vous vous reposez?
On devient tout mou.
Bah moi, on dirait que je sens que je vais faire le funambule. C'est comme une maladie.
Quand je m'endors, c'est comme si j'étais une plume.
Bah moi, je dors comme un bébé.
Moi, je dors comme un bébé. Ça, c'est bien. Alors, ma première question, c'était de savoir comment on danse pour des enfants. Qu'est-ce que ça a de particulier? Et est-ce que c'est le thème, votre thème du sommeil, qui vous a amené à choisir la génération auquel vous destinez votre spectacle?
Je ne saurais pas dire dans quel ordre les choses se sont enclenchées. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait un spectacle pour le jeune public, pour cette tranche d'âge-là, qui est très particulière, puisque déjà leurs yeux sont plus bas que ceux d'un adulte quand ils sont assis. Donc déjà, ils ont un point de vue qui est différent. Donc là, dans le spectacle, je passe quand même beaucoup de temps à l'horizontale. Donc je suis assez proche, en fait, de leur regard. Et ce que j'ai aimé quand j'ai dansé pour eux en octobre, parce qu'on a eu la chance de pouvoir sortir le spectacle entre les gouttes d'eau, c'est d'avoir en fait tous leurs petits commentaires, parce que les enfants sont très proches. Évidemment, ils parlent en même temps, ils décrivent, ils font les voix off, et il y a parfois des choses qui sont vraiment étonnantes et rigolotes.
Ils dansent aussi parfois avec toi ?
Oui, alors dans ce spectacle-là, j'ai moins eu l'occasion de le voir parce que j'ai beaucoup les yeux fermés. En revanche, sur nos deux premières créations, ça nous est arrivé en fait de pouvoir proposer des extraits dans les écoles, pareil avec des ateliers. Et dans ces deux propositions-là, j'ai les yeux ouverts et effectivement, souvent je vois les enfants commencer à se pencher lentement et commencer à prendre les mêmes positions que moi. Et puis parfois aussi, après le spectacle, je les vois monter sur scène et puis là, essayer de faire toutes sortes de choses. Et si je suis encore dans les parages, venir m'agripper pour me demander si je sais faire la roue, le grand écart ou autre chose. Et là, je passe un réel examen technique et physique devant les enfants.
Avant de rentrer peut-être plus avant dans la discussion sur le spectacle à proprement parler, on se proposait avec Lou d'essayer d'évoquer des éléments du spectacle puisque nous sommes les seules personnes, parmi les quelques personnes qui l'avons vu.
Nous prenons place au sol, sur le plateau de théâtre, de part et d'autre d'un grand rectangle, tapis de danse tout blanc.
Jérémy et Christophe, sur le côté, sont installés dans la pénombre. Les deux musiciens accompagneront les mouvements de la danseuse et notre regard se posera selon notre bon plaisir, tantôt sur la danseuse,
tantôt sur les mains des musiciens en pleine invention. Clarinette, verre, petites percussions et machines à son trafiqué seront de la partie.
À l'opposé, sur le rectangle blanc, se trouve une boule lumineuse. On dirait une pleine lune en volume.
Plusieurs espaces sont éclairés. On distingue un tas de plumes, un monceau de laine, des bogues de liquide imbar serrées les unes contre les autres, une étoffe blanche comme une couverture légère et trois petits monticules, sucre, sel et sable.
Maëlle, longs cheveux foncés, vêtue d'un costume clair, s'avance et relie ces espaces en dansant. Son corps se meut, se transforme et les images s'égrènent. Qui voit apparaître une petite souris, qui une biche, un héron, une girafe, une chrysalide? Et vous, qu'avez-vous vu?
Ben, je trouve que c'est super, merci beaucoup pour cette audiodescription. C'est une tentative de transcription de ce qu'on peut avoir vécu pendant, comme spectateur. On est bien embêté au TJP parce qu'on ne peut pas remplacer l'expérience du spectacle. On peut la remplacer que maladroitement et qu'on fait tout pour le faire. Garder le lien avec le spectateur, garder le lien avec vous. Effectivement, dans cette proposition, on est très proche de la danse, très proche du son. Et vous avez pu être là pendant quelques jours, comme d'autres compagnies aussi ces dernières semaines qui ont pu quand même travailler. Donc ça, c'est quand même une grande chance de pouvoir quand même ouvrir le théâtre aux artistes et qu'ils puissent continuer à être dans leur matière de travail et parfaire leurs objets. C'est par ce biais-là de la radio que l'on peut quand même essayer de vous transmettre quelques sensations. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est très proche donc du plateau. Et on l'a entendu, on est au seuil de l'endormissement. Et j'avais une question pour toi, Maëlle, dans ce rapport-là à l'endormissement, qui est quand même plutôt un lâcher-prise, on l'a entendu, on a parlé de funambule, de plumes, d'élévation, de suspension. Tu es dans des positions qui sont très... qui t'emmènent dans des positions un peu improbables, proches de cet imaginaire des animaux qui s'endorment. Comment ça se passe pour toi dans un corps qui semble du coup être en contradiction entre je me détends, je m'endors et puis en fait visiblement pas du tout.
Je crois que ça c'est au cœur de ma recherche, c'est de trouver un endroit de liberté même dans une grande contrainte. Donc là en l'occurrence, effectivement mes positions de corps sont contraignantes. Mais à l'intérieur de ça, j'essaie de trouver une manière de laisser voir, en fait. Mon idée, c'est que pour que l'imaginaire du spectateur puisse se projeter là-dedans et ne pas voir une position de contorsion ou une position qu'on pourrait faire dans un cours de yoga parce qu'il y a beaucoup de positions que les gens connaissent, l'idée, c'est de pouvoir véhiculer une certaine forme de tranquillité qui serait justement anormale et du coup étrange et du coup qui attire l'œil et d'essayer de se dire, bah, ça se trouve, elle est beaucoup mieux installée, la tête calée derrière ses pieds que moi, je le suis en tant que spectateur sur mon coussin. Voilà, c'est tout ce rapport-là au confort. Et j'essaye de créer comme ça un dialogue avec le spectateur sur... pas nos positions respectives, parce que le spectateur, il bouge aussi de position, moi, la même manière. Et du coup, j'essaye de ramener une espèce de calme, une ambiance où... Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à trois, où ça se pose. Parce qu'en fait, un enfant entre 3 et 6 ans, il est quand même très, très actif dans son corps. On a presque l'impression souvent que c'est moins difficile pour lui de gigoter dans tous les sens que de rester immobile. Donc là, l'idée vraiment de ce spectacle, c'est d'amener, sans que l'enfant se sente obligé, à se poser, en fait. Se poser et trouver une certaine forme de calme. Et du coup, ça passe par les formes ludiques du corps qui vont intéresser les enfants au premier abord parce que c'est rigolo, parce que c'est étrange, parce que peut-être ils vont avoir envie de le faire. Et puis comme ces positions, elles durent dans le temps, du coup, il se passe un deuxième phénomène qui est celui de la respiration et d'un passage vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Je ne vais pas dire un lâcher-prise parce que ce n'est pas vrai. Ni le spectateur, ni moi ne lâchons prise. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de dialogue qui n'est pas quotidien. Voilà.
J'ai l'impression qu'effectivement, la question du rythme, elle est essentielle. Et quand bien même tu sembles t'endormir, tu es quand même traversé par des rythmes qui sont extrêmement... différents, et notamment au début du spectacle, c'était une espèce de vibration, de sac à dos comme ça, dans une chose qui se relâche, mais qui ne se relâche pas de façon brutale et définitive. On passe par des états de rythme qui sont très différents.
Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est assez nombreux à avoir cette sensation au moment d'endormir de chute. De petits sursauts et du coup il y a à la fois l'entièreté du corps qui va se poser et s'endormir et à la fois cette petite résistance qui est, ah non pas encore, je veux encore rester dans cette journée, je veux pas tout de suite sombrer, et du coup il y a un espèce de petit combat interne qui est l'objet de la première scène du spectacle que j'ai couplé avec des petits mouvements qui me semblent être un peu dans la même énergie, qui sont ceux d'un rongeur, quoi. Le rongeur, il est toujours préoccupé, il va très vite. Le rongeur, il est un peu stressant, je trouve, à regarder. Et du coup, voilà, là, cette première image, il y a quelque chose de très petit et vibrant à l'intérieur du corps, alors que le corps, dans son entièreté, est dans une position, en fait. Hein. Je ne sais pas, les 3, 4, 5 premières minutes du spectacle, je ne suis que dans une seule position, à genoux, dans du coton, avec cette petite veilleuse lune sur les genoux. Donc c'est une seule image posée. On pourrait imaginer un plan fixe en cinéma. Et puis à l'intérieur de ça, il y a ce mini-combat qui se joue, qui est celui de la chute et de se laisser chuter ou pas. Et puis du retournement et renversement de situation.
Alors on va... Bonjour Mélodie.
Quoi ?
Mélodie, tu nous rappelles si t'es pas prête.
Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose Mélodie ? Ou tu veux nous rappeler un peu plus tard si tu n'es pas prête ?
Bah oui, je suis prête.
Alors on t'écoute.
Oui. Je m'endors en rond. Je m'endors en rond.
Tu t'endors en rond ?
Oui. J'ai mon doudou et il est grand.
Tu t'endors en rond avec un grand doudou. C'est comme ça que tu dors, toi.
J'ai mon nounours qui fait de la lumière.
Ah, un peu comme la petite lune dans le spectacle, dans la vidéo de Maëlle.
Et j'ai une turbulence parce que ma maman veut pas sortir. Elle veut pas que je sorte mes chaussettes depuis la nuit.
Eh ben merci Mélodie pour ce témoignage. On va tout de suite rebondir là-dessus.
Est-ce que vous avez envie de réagir à ce coup de téléphone ?
Moi, je rêverais d'avoir une turbulette taille adulte.
Alors, j'avais une question, moi, sur la... En fait, pour vous trois, mais sur la musique, en fait, sur la présence, parce que ce qu'on disait, c'est que vous êtes tous les deux présents sur scène, un peu dans la pénombre, sur le côté, et vous accompagnez tous les mouvements en live, en direct de Maëlle. Et du coup, j'avais envie de savoir un peu quelle avait été votre recherche sur la composition musicale et les instruments que vous avez choisis, comment un peu tout ça s'est tricoté.
Eh bien, nous, c'est le troisième spectacle qu'on fait tous les trois. Donc, on avait comme l'habitude de travailler ensemble. On voulait que ça ressemble au travail habituel, mais quand même un petit peu orienté vers les enfants. Du coup, on s'est intéressé à des instruments plutôt acoustiques. On a sorti un peu nos petites guitares, les kalimbas. Voilà, on voulait des instruments qui soient intéressants aussi à voir. Et voilà. Et parce que sinon, on fait quand même pas mal d'électro aussi avec Christophe. Et voilà, là, on s'est un peu orienté vers un set un peu plus acoustique. C'était un peu ça.
Du coup, mais... on ne peut pas s'empêcher de mettre un peu d'électro, oui, là-dedans, mais à la base, on part quand même effectivement de nos petits instruments qui pourraient faire penser aussi un peu à l'enfance, quoi, le kalimba, la mini-guitare, les petites percussions de Jérémy.
Et à un moment, on vous voit faire de la musique avec des verres d'eau, c'est très joli. Comment ça marche ? C'est quoi la recette ?
Eh bien, les verres d'eau, on a peut-être tous pratiqué de taper un repas de Noël comme ça sur son verre, un peu en s'embêtant. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai une espèce de passion comme ça, donc j'achète des verres et je tape sur des verres. Alors, si on veut le faire chez soi, il faut prendre un verre, plutôt un verre de type verre à vin ou verre ballon. C'est pas forcément un verre en cristal, il faut que ça soit un verre fin. Donc plus c'est fin et plus ça va marcher. Et après, il faut essayer de taper dessus avec quelque chose qui soit assez doux. Même si on tape avec une fourchette, ça ne va pas marcher, ça va casser le verre. Mais si on met par exemple un petit bout de mouchoir ou de tissu autour de la fourchette ou autour de la cuillère, on peut taper sur le verre. Et selon la quantité d'eau qu'on va mettre à l'intérieur, eh ben, ça va changer la note du verre. Et les verres, c'est comme les cloches d'église. En fait, c'est des corps qui sont assez particuliers parce que... je ne vais pas vous faire un cours d'acoustique, hein, mais disons que les harmoniques ressortent plus que la fondamentale. Donc, c'est vraiment des corps qui font des sons particuliers, vraiment très particuliers.
Donc, enfants, parents, tous à votre activité du dimanche.
On peut tous faire ça, oui. Préparer Noël.
Casser les verres à maman. Voilà.
Et comment ça s'est arrivé l'idée de faire avec les musiciens sur scène ? Et comment vous avez agencé ce travail entre la musique qui est jouée en live et puis tes mouvements ? Parce que aussi, je dis ça parce qu'en fait, quand on est allé dans l'école Joie de Vivre, qu'on a fait ces ateliers, tu as proposé aux enfants de faire à l'inverse, c'est-à-dire mais d'expérimenter cette relation qui est très riche entre bouger. Là, tu leur demandais... Tu bouges et ils t'accompagnent. Et aux enfants, tu leur demandais de produire des sons avec leurs mains, puisque c'est ce que tu fais, Christophe, ce que tu as fait tout à l'heure aussi. Il y a un grand travail sur la sonorité, la percussion corporelle, et puis aussi qui est reprise par les machines où il y a de l'écho et le son est transformé. Toi, tu bougeais au son de ce qu'ils produisaient.
Alors, il faut savoir que moi, je joue aucun instrument de musique, mais j'ai un grand plaisir dans l'idée de jouer ensemble. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que la sensation comme ça, peut-être de premier abord, c'est que je suis seule en scène. Pour moi, c'est pas du tout ça qui se joue. On est vraiment trois. Il y a un dialogue entre nous trois. Et en fait, la relation, elle est aussi mystérieuse, si je peux prendre une image, que si vous êtes face à la mer, par exemple, vous voyez la mer, bon, l'océan, vous voyez le ciel, et en fait, la ligne d'horizon, elle n'est pas hyper claire entre qu'est-ce que c'est le ciel, qu'est-ce que c'est que la mer. Il y a un truc un peu comme ça, flou, Et ben dans la relation entre le corps et le son, je trouve quelque chose de cet ordre-là, parce que j'ai l'intention de bouger, donc quelque part, il se passe déjà un pré-mouvement qui est senti, vu, perçu par Jérémy et Christophe. De même que dans une musique, il y a un rythme, il y a un truc où ça peut se passer là, où ça ne peut pas se passer là. Donc il y a aussi une pré-note. Et l'idée, c'est de faire converger nos intentions pour que l'action ait lieu en même temps. Et du coup, je ne saurais pas l'expliquer mieux que cette image mer-ciel qui converge et où il y a, c'est assez flou, en fait. Enfin, et pour moi, c'est assez mystérieux quand on est au plateau de voir que les choses, elles tombent ensemble. Après, c'est mon point de vue. Je pense que pour les garçons, c'est peut-être vraisemblablement beaucoup moins mystérieux parce qu'ont le visuel et me connaissent aussi assez bien. Et du coup, savent peut-être à quel moment je vais faire quelle chose. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être à eux d'en parler. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du mystère.
Et effectivement, il y a quelque chose d'un trouble comme ça. On ne sait pas qui commande qui impulse l'autre. Moi, je me posais la question des matières qui sont sur la scène aussi, qui sont aussi un endroit de rencontre. Tu rencontres le son, tu rencontres... nous, on est en lien avec cette lumière tamisée qui est faite de projections, qui nous amène avec des zones d'ombre et des zones de texture presque, plus que de la lumière, et qui viennent illuminer des matériaux qui sont différents. Et je me demandais comment tu as choisi ces matériaux et qu'est-ce qui t'emmène, qu'est-ce qui te propose comme chemin, comme ça, comme un voyage dans cet endormissement.
Alors déjà, il y a une première chose, c'est que c'est la première fois qu'on travaille avec plusieurs matériaux différents au plateau. Donc ça, pour nous, c'était déjà quelque chose de tout à fait nouveau. Et du coup, ça ouvre la possibilité d'un voyage de transformation entre ces différents matériaux. Puisque du coup, dans nos deux pièces précédentes, on travaillait qu'avec une seule matière qui recouvrait l'espace de jeu. Donc on avait vraiment travaillé et axé le travail sur prendre une matière et la transformer au même titre que mon corps se transforme au fur et à mesure de la pièce. Donc ça, c'est un peu notre postulat de base. Et pour les enfants, on a eu envie de pouvoir avoir plusieurs matières et qui puissent permettre, en fait, comme un livre tactile, de pouvoir à chaque page toucher quelque chose de différent, rugueux, doux, quelque chose qui peut-être ferait du bruit. On s'est... réunis ensemble, on a essayé de jeter un peu comme ça des matières de manière un peu improbable, je dirais, sur le plateau. Et puis au fur et à mesure, on a affiné parce qu'il faut aussi que ces matières-là, elles rencontrent la lumière et la vidéo de manière assez gracieuse. Et pas toutes les matières ont cette capacité-là d'attraction visuelle. L'idée, c'était aussi qu'on puisse se permettre de mettre au plateau des matières qui, même sans lumière, soient... intéressante et attirante à regarder, ou en tout cas qu'elle donne envie aux spectateurs de rentrer dans l'espace. Parce que du coup, l'idée, à la base, c'était de pouvoir proposer, à la fin du spectacle, une immersion pour les gens. Donc ça, c'était avant l'histoire du Covid, qui puissent, en fait, toucher les matières. Et donc, pour ça, il faut des matières qui appellent à être touchées. Donc voilà, du coup, ça, c'était un peu nos critères de base pour faire une espèce d'audition de matière. Donc, on a testé plein de trucs. Et puis après, on a organisé ça dans l'espace aussi en fonction des différents matériaux physiques que j'avais déjà travaillés en amont. En fait, il y a eu au départ, c'est un peu séparé comment on travaille. On choisit des matières pour un peu leur pouvoir sensoriel ou visuel parce qu'elles nous parlent, qu'elles nous touchent quelque part. Moi, je travaille de mon côté le corps et après, on essaie de faire converger ces deux choses-là. Et du coup, ça décide aussi quel chemin dans l'espace parce que ça, c'est lié aussi aux contraintes du corps. Voilà.
Alors, on va prendre un nouvel appel.
Bonjour, Angèle.
Bonjour.
Alors, il paraît que tu avais une petite question ou quelque chose à dire à la radio. On t'écoute.
Oui. Comment vous arrivez à faire une position pour dormir?
Ah, c'est une très belle question. On te remercie de nous l'avoir posée, Angèle, et je vais laisser la parole à Maëlle pour y répondre.
Alors, Angèle, je dors pas comme ça, pour de vrai. Là, c'est dans un spectacle. Et comment je fais? Eh bien, je me suis entraînée, mais dans la vie, je m'assois de manière normale, je dors de manière normale et je mange de manière normale.
Mais tu t'es pas mal inspirée aussi des animaux pour ces positions.
Oui, exact.
Des petits enfants.
Moi, j'adore aller au zoo, regarder les animaux dormir. Et spécialement en Autriche, il y a un zoo qui propose aux spectateurs de pouvoir voir les animaux qui sont en hibernation. Et si tu as l'occasion de pouvoir aller là-bas, c'est génial.
C'est vrai qu'il y a une position qui nous fait tous, je pense, très envie dans le spectacle, c'est que tu arrives à être à la fois matelas, oreiller et personne au repos. Et ça, c'est vrai que je pense que ça fait quelques envieux. Il y a quelques personnes qui ont vu le spectacle et qui ont des images aussi qui leur sont restées que je voudrais vous faire écouter. Et peut-être qu'on puisse ensuite rebondir sur la question aussi de l'animalité et du corps des animaux.
L'image qui m'a marquée, c'était celle des pointes avec l'interprète qui s'est dressée sur ses deux pointes, mais la tête en bas quand même. Tout d'un coup, ça faisait très, très, très animal et j'essayais de mettre des mots là-dessus. Je me disais, est-ce que c'est la girafe ? Est-ce que c'est la biche ? Et c'était assez beau de l'avoir avancé comme ça. Je pense que c'est ça qui me restera.
Moi, je crois que l'image qui me restera, c'est la traversée au sol d'une sorte de chenille, une sorte d'accordéon qui se déplie, qui se replie et doucement qui va vers son cocon, sa petite qui va se cacher en fait sous une sorte de chrysalide et tel un papillon en fait, elle va se déployer et naître hors de cette chrysalide.
Alors l'image qui me reste moi du spectacle, c'est quand l'interprète elle est en train de se frotter le museau parce qu'elle se réveille. Et voilà, elle est en train de se réveiller, elle bâille, et puis elle a ses petites pattes qui entourent son visage, et on entend tous ces petits frottements. C'est trop mignon parce qu'on a l'impression de voir une petite bête qui sort de son trou. En fait, c'est une danseuse, hein, c'est pas une petite bête, mais moi j'ai vu une petite souris qui sortait du trou et qui est en train de se réveiller, en train de laver ses moustaches, et tout doucement qui réveille son visage.
Alors, danseuse ou souris ?
Souris.
Ben nous, on donne des noms aux choses. Donc, on a effectivement une souris, on a effectivement une chenille. Enfin, tout ce qui a été décrit, ça fait partie des noms qu'on se donne entre nous, hein, dans les carnets de notes, les noms aussi pour envoyer les top lumières, vidéos, etc. Et donc, je trouve ça toujours assez étonnant de voir que sur un spectacle où il n'y a pas de paroles, où les choses ne sont pas prononcées, le mot émerge quand même, en fait. Et que ce soit exactement le même mot. Alors, que ce soit des mots un petit peu différents, de type, je ne sais pas moi, limace, alors que pour nous c'est chenille, bon, ok. Mais quand la personne dit vraiment chenille et que pour nous c'est chenille, c'est quand même la classe, quoi.
Et puis en parallèle avec le corps qui se contorsionne, à mes yeux en tout cas, il y a eu donc, tous ces animaux qui sont identifiables, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui peut-être s'apparente plus à de l'inconscient, parce que justement, à un endroit précis, de la transformation d'un animal vers autre chose, on ne reconnaît pas forcément. Ça m'a donné l'impression d'entrer plus dans l'inconscient, peut-être de voir quelque chose de plus en train d'arriver, un peu à l'image de ces livres où on a la tête d'une girafe sur le corps d'un hippopotame et la queue d'un serpent.
Oui, après, les choses ne sont pas aussi claires tout le temps, partout. Parfois, il y a vraiment des animaux très identifiables. Identifier. Et puis parfois il y a aussi des états de transformation entre et des petits mix parce que oui, moi j'ai beaucoup joué à ça, justement ces espèces d'animaux là dont on peut mixer le bas, le milieu, le haut et je crois que la contorsion elle a aussi cette possibilité de pouvoir un tout petit peu retourner l'esprit, les sensations et accéder à un autre endroit de réalité. C'est la réalité, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui est ordinaire. Et donc, du coup, pour moi, ça a trait plutôt aux rêves. Enfin, en tout cas, dans mes rêves, je fais des choses mais extraordinaires physiquement, mais vraiment extraordinaires, et qui ne sont vraiment pas possibles. Donc voilà, le fait d'emprunter le chemin de la contorsion au plateau, c'est déjà pour moi une première porte pour accéder presque à mes rêves. Ça déplace déjà un petit peu, il y a déjà un petit challenge, déjà une petite transformation par rapport au corps ordinaire. Bon, c'est vraiment très très loin de ce que je rêve, mais en tout cas, c'est le début.
C'est là où on n'est jamais dans une démonstration de contorsion. Enfin, c'est aussi ce qui nous parvient, c'est qu'on est vraiment face à un corps qu'on ne comprend pas toujours dans ses positions, dans ses renversements. Mais ce qui nous touche, je crois, c'est l'intériorité qui s'en dégage. C'est comment tu arrives, toi, à trouver une position, un endroit d'inconfort, un endroit d'être ton propre support, et de voir comment, effectivement, quelle intériorité, quel monde tu fais émerger dans ton propre endormissement. Et c'est ce chemin-là qui nous attire aussi, qui nous entraîne dans ta propre matière.
Alors, c'est vrai que d'un point de vue totalement pratique, la contorsion, c'est un chemin à trouver dans le corps qui n'est pas le même chaque jour, en fait. Il y a des endroits où ça ne passe pas, donc il faut être assez fin. Moi, ce n'est pas une pratique que je fais de manière quotidienne. Donc, du coup, en tout cas, au plateau, j'ai à cœur de pouvoir faire partager cette recherche de cheminement. Et donc, du coup, je tente et puis je vois l'endroit où je peux passer. Et c'est vraiment cette idée-là aussi que j'ai voulu défendre dans le titre de la compagnie, hein, Fimentaille. L'idée, c'est un peu qu'à plein d'endroits, je trouve, dans la création, dans la vie, ou même par rapport à la contorsion, on est face à un mur, ou en tout cas un truc où on se dit non, ça ne va pas passer, clairement, ça ne passera pas. Sauf que si on prend le temps de pouvoir toucher ce mur, le regarder, on voit qu'il y a une faille souvent qui est possible. Et donc, à l'endroit de cette faille... on peut tranquillement mais sûrement arriver à passer et puis accéder à autre chose.
Traverser les murs,
ouais.
Et aller de l'autre côté.
Et c'est vrai qu'on est sur cette question aussi du passage des seuils, en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, très beau dans le spectacle, c'est que les choses se transforment, mais c'est de l'ordre aussi parfois de l'invisible, de micro-mouvements. Et je parlais de grâce dans l'ouverture de l'émission, mais il y a un peu de ça. Il y a aussi quelque chose qui est autour de la pureté. Et ça me fait penser aussi qu'on a eu une question que je vais répéter plutôt que de diffuser, mais qui était pourquoi, Maëlle, dans ton spectacle, dans votre spectacle, tout est blanc ?
Il y a un côté pratique, hein, je crois, parce que du coup, on travaille avec de la vidéo pour éclairer l'espace, pas mal avec la vidéo. Et du coup, ça nous permettait de pouvoir projeter des matières, matière lumière, matière vidéo sur le blanc. Je pense qu'il y a quelque chose aussi...
C'est facilement transformable, et le blanc est un très bon support pour pouvoir accueillir... toutes sortes de lumière, en fait. Et après aussi, moi, je trouvais ça très intéressant d'être sur quelque chose de presque monochrome, parce que ça ne l'est pas véritablement. Il y a du blanc, mais après, il y a toutes sortes de nuances, d'écrus et de choses qui tirent un peu parfois sur le jaune. Donc... il n'y aura pas vraiment une raison, comment je peux dire... poétique et philosophique à ça, je crois. C'est juste, à un moment donné, on s'est dit on part là-dessus, et ça nous, c'était une belle page blanche, en fait, pour pouvoir nous écrire, dessiner et puis transformer ça, quoi.
Ouais, il y a ça, ce truc de la page blanche qui nous permet après de mettre les couleurs qu'on a envie dessus.
Voilà, ouais.
Parce que le blanc aussi, ça nous permet ça, quoi.
Et si on considère la musique comme une couleur, puisque vous avez apporté vos instruments et autres machines, peut-être que, comme on a pas mal parlé de la musique qui accompagne les mouvements de la danse, on pourrait entendre quelques minutes d'une... Du coup, je ne sais pas si c'est la musique du spectacle ou une composition instantanée que vous allez nous offrir.
Non, je crois qu'on était parti sur de la musique du spectacle.
Ouais.
Tu préfères faire
comme tu veux.
Partie de Kalimba.
On fait ça ?
Ouais.
Ok.
C'est dommage, j'ai travaillé votre partie hier soir, mais...
Non, on peut faire l'autre, hein.
Non, c'est bon.
On aura le temps d'en faire deux.
Mais bien sûr.
Ouais, magnifique. Thank you.
Ça, c'est quelque chose qui est un petit... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans le spectacle.
Oui.
Pas tout à fait. C'est un peu différent.
On a mis une guitare à la place des petites percussions.
Et vous aviez un deuxième morceau à nous faire partager.
C'est parti.
merci beaucoup. C'est une très belle façon d'engager la suite du dimanche et aussi de partager l'esprit, l'environnement, l'ambiance comme ça du spectacle qui est très immersif comme ça. On est pris dans cette atmosphère sonore. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est extrêmement précieux. On expérimente comme ça à travers la radio et on essaie de partager malgré tout ce que vous proposez. Et je suis très heureux que vous puissiez être là avec nous, dans nos murs et au travail, et qu'on puisse toucher comme ça du bout des oreilles et votre univers.
À nous aussi, on est heureux.
Et puis dans l'autre sens, on vous montrera aussi, parce que beaucoup d'enfants en fait ont participé à toutes les petites vignettes vidéo que vous avez faites, et notamment la quatrième, on a reçu beaucoup de dessins réalisés par les enfants que bien sûr on vous montrera tout à l'heure.
Merci beaucoup, c'était en plus une première d'avoir de la musique en live sur le plateau de Radio Pratique, et on n'est pas peu fiers, merci beaucoup. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pourrez retrouver la prochaine session, la semaine prochaine, à la session du TJP de Damien Bouvet. Et en janvier, enfin, les théâtres seront rouverts et vous pourrez affluer en nombre au spectacle Moby Dick d'Ingvild Aspeli qui sera présenté au mois de janvier. Merci beaucoup et très bon dimanche.